Oh, me que se pastil.
Me que se pastil.
Oh, me qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 6 novembre. Et on commence sans sommaire cette semaine avec deux histoires de banderoles et deux histoires qui se passent dans le Gard, des banderoles qui se sont fait écho ce week-end. Tout d'abord, c'était à Nîmes que ce dimanche, deux jeunes femmes, ont déployé une dimanche contre la venue de Jordan Bardella. C'était sur les arènes de Nîmes, hein, alors que celui-ci donc venait dédicacer son nouveau livre dans une brasserie à Nîmes, c'était ce dimanche. Deux femmes ont déployé une banderole juste en face sur les célèbres arènes de la ville. Bardella, casse-toi. C'était écrit dessus, peint en noir sur un drap blanc avec des flèches rouges vers le bas. C'était, je crois, le logo de la jeune garde antifasciste. Ces deux femmes ont été interpellées très rapidement, hein, et la banderole a été saisie. Elles ont été interpellées pour organisation d'une manifestation non déclarée et placées en garde à vue. Elles n'en sont ressorties d'ailleurs que le lendemain matin. On est resté 21 heures en garde à vue, explique celle-ci en sortant aux journalistes de Ici Gare Lozère. Marrant, dit-elle, hein, pour une banderole. On a pris la décision de faire cette action pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec les idées et les valeurs de Jordan Bardella, pour essayer de faire un peu de bruit. Désolé si on a fait trembler le Front National avec une banderole, on ne pensait pas, ajoute-t-elle. Elle conteste en revanche le motif de l'interpellation, puisqu'une manifestation, dit-elle, à deux pendant 4 minutes dans les arènes. Bah pour elle, ce n'est tout simplement pas une manifestation. Et en écho de cette petite action, il y avait aussi un contre-rassemblement organisé donc avec une cinquantaine de personnes qui slandaient des slogans antifascistes face à la foule de gens qui étaient quand même venus se faire dédicacer, eux, leur ouvrage par Jordan Bardella. D'autres banderoles qui a été déployée ce week-end, mais elle, sans être saisie ni aucune interpellation, c'est sur le pont du Gard. Une action géante, hein, il faut le dire, en soutien à la Palestine, a été menée avec des drapeaux palestiniens déployés lors de cette action surprise. Elle a été organisée par un collectif dans la plus grande discrétion, hein, depuis quelques semaines, peut-être même des mois. Ces militants ont déployé donc trois drapeaux palestiniens très longs sur l'aqueduc romain, avec la volonté d'en faire un pont pour l'humanité. Ils ont filmé leur action, pris des photos et chanté des slogans. Ce, alors, rappelle-t-il que la France a reconnu officiellement l'État de Palestine le 22 septembre dernier, que l'armée israélienne bombarde Gaza depuis de nombreux mois dans le cadre du conflit armé entre Israël et le Hamas suite à l'attaque du 7 octobre 2023. Il est rappelé dans ce communiqué que l'attaque du Hamas a causé la mort de 1221 personnes, en majorité civiles côté israélien, et que contre-offensive qui l'a suivie a fait, elle, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, considéré comme fiable par l'ONU, 68 865 morts, là aussi en majorité des civils. Depuis, un cessez-le-feu est entré en vigueur, vous le savez, le 10 octobre, à la faveur de la première phase de l'accord de paix entre Israël et le Hamas. Ce mardi encore, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelait les parties prenantes à cesser de violer l'accord de cessez-le-feu. Mais visiblement, personne n'écoute plus le secrétaire général de l'ONU. On reste dans la thématique avec justement les implications sur le territoire du génocide en cours à Gaza, disons-le. C'est l'association À Lyon Nous qui dénonce l'interdiction répétée dont elle est victime sur les conférences qu'elle souhaite organiser sur la Palestine ou l'antiracisme en manière générale. Ça se passe à l'université Jean Moulin Lyon 3. L'association porte donc l'affaire devant le tribunal administratif aujourd'hui même. Si la présidence pense nous épuiser par la censure, elle se trompe. Sur les réseaux sociaux, c'est le collectif féministe À Lyon Nous qui est remonté. Depuis plusieurs mois, les militantes, puisque ce sont principalement des femmes de cette association qui a été créée en 2017, constatent des interdictions systématiques par leur université, l'université Jean Moulin Lyon 3, pour leurs événements antiracistes ou sur le conflit palestinien. Pardon. Il y a d'abord eu cette conférence sur la participation des femmes à la lutte palestinienne, organisée avec Rima Hassan, ça devait être le 28 mars 2024. Une autre sur l'intersectionnalité des luttes et la convergence des luttes antiracistes et féministes, ça devait avoir lieu le 31 mars. Ou une autre conférence, là aussi interdite, « Femmes et génocide, réalité palestinienne », refusée par deux fois. C'était les 19 septembre et ce 9 octobre dernier. Depuis, donc, le collectif a saisi les tribunaux avec trois procédures. Un référé liberté pour protéger leur droit à organiser la conférence, un référé suspension pour bloquer le refus de l'université et enfin un recours au fond pour contester la décision de manière plus complète devant le tribunal administratif. L'audience doit avoir lieu donc aujourd'hui même, elle est peut-être même déjà en cours. Cette association est représentée par l'avocate Célia Berthe-Lasly, soutenue par la Legal Team Antiraciste. C'est un collectif de juristes qui s'engage contre les discriminations. Les militantes veulent faire de cette affaire un combat politique autant que juridique. Voici ce qui est répété dans leur communiqué. Une université ne devrait pas sélectionner les paroles et réduire au silence celles qui dérangent. L'université Lyon 3 a été contactée. Elle se contente, elle, d'un message laconique. Elle renvoie toute explication à l'audience. Une procédure étant engagée devant le tribunal administratif, l'université réservera ses réponses aux griefs de la partie demanderesse. Une étudiante en master de droit et membre du collectif, âgée de 21 ans, qu'on appellera Sonia, constate, elle, un tournant depuis l'irruption du conflit palestinien dans le débat public. À chaque fois, en effet, l'université de Lyon 3 justifie ses refus par des raisons de sécurité. Elle cite à chaque fois dans ses mails systématiquement le risque de troubles à l'ordre public. C'est d'ailleurs la même raison pour laquelle souvent les policiers, par exemple, dispersent par exemple le petit regroupement qui a eu lieu à Nîmes. Concernant la conférence du 9 octobre, l'université a précisé que compte tenu du contexte et de la sensibilité du sujet, ses ressources financières et humaines ne permettaient pas d'assurer la sécurisation nécessaire à l'événement. Donc sous-entendu, voilà, ils ne voulaient pas payer pour les vigiles. Et d'ailleurs, cet argument est répété souvent, il est intenable pour les militantes qui dénoncent un écart de traitement entre leurs initiatives ou celles d'autres événements qui ont été autorisés. Ainsi, au mois d'avril, l'Union nationale interuniversitaire a pu inviter la députée Hanan Mansouri, qui est une membre du parti UDR d'Éric Ciotti, plutôt favorable au rapprochement entre les Républicains et le Rassemblement national. Pour ces personnalités politiques-là, par exemple, l'université a su mobiliser les moyens nécessaires pour sécuriser les événements. La justification qui a été avancée pour la conférence « Femmes et génocide, réalité palestinienne » ne tient d'ailleurs pas pour en tout cas les militantes de cette association, puisque le collectif avait fait demander justement un devis du service de sécurité de la fac qui était de 560 €, et elle se disait justement prête à payer. Auparavant prise en charge par l'établissement, la sécurité des événements étudiants est en effet maintenant demandée et payée par les associations. En attendant l'audience, puisqu'on parle d'argent, une cagnotte a été lancée pour couvrir les frais d'avocat. En cas de victoire, cette cagnotte permettra justement de financer les 560 € de coûts de vigile imposés par la faculté. En cas de défaite devant la justice, la conférence se tiendra ailleurs, coûte que coûte, et les fonds seront reversés aux associations palestiniennes. Pour ce qui est de le cadre juridique, on verra ce qu'en disent les juges aujourd'hui, parce qu'à Lyon, c'est particulier. Mais en tout cas, le cadre semble donner raison à ces militantes, puisque depuis octobre 2023, le Conseil d'État, ainsi que plusieurs tribunaux administratifs, que ce soit à Lyon ou à Strasbourg, répètent qu'il est illégal d'interdire une conférence au seul motif d'un contexte géopolitique tendu, faute de troubles établis à l'ordre public. D'ailleurs, plus récemment, l'an dernier, le 26 novembre 2024, c'était le tribunal administratif de Strasbourg qui estimait que le refus d'autoriser une conférence avec Rima Hassan portait atteinte à la liberté d'expression.
Oh, les ras-bol, tout ça, Rémi, c'était que vraiment la fin.
Lui aussi a d'ailleurs toujours affirmé son soutien à la cause palestinienne et il a été finalement élu. C'est Zoran Mamdani. Les sondages n'avaient pas menti. Ce démocrate socialiste américain, états-unien, a bien été élu donc ce 4 novembre à la mairie de New York. Il a récolté 50,4% des voix. Il était encore inconnu du grand public il y a un an. Le grand favori du scrutin en face à Andrew Cuomo, qui est lui l'ancien gouverneur de l'État de New York et perdant de la primaire démocrate, qui est devenu depuis indépendant. Il était aussi face au républicain Curtis Sliwa. Il succède donc au démocrate Eric Adams et prendra ses fonctions ce 1er janvier. À 34 ans, Zoran Mamdani devient donc le premier maire musulman de New York, la ville la plus peuplée des États-Unis avec ses 8,5 millions d'habitants. Mamdani est né en Ouganda, il est d'origine indienne, il a été naturalisé citoyen des États-Unis en 2018 et il est élu à l'Assemblée de l'État de New York depuis 2021. Avant cela, il a eu une courte carrière de rappeur, apprend-on dans son CV. « Je suis jeune malgré tous mes efforts pour vieillir », déclarait-il après l'annonce des résultats. « Je suis musulman, je suis un socialiste démocrate et le plus grave du tout, c'est que je refuse de m'excuser pour tout cela ». Il a estimé en effet que cette élection venait de renverser une dynastie politique et son programme est plutôt bien à gauche, bien à l'aile gauche d'ailleurs de ce qui se fait en termes de démocrate aux États-Unis. Il est dans la lignée d'un programme politique à la Bernie Sanders, donc plutôt sur une gauche anticapitaliste. Son programme s'est donc très naturellement axé sur la vie chère, avec des propositions économiques pour rendre la vie des New-Yorkais abordable. Celles-ci sont perçues comme radicales et très à gauche, hein, même au sein, donc, je vous le disais, de son propre parti. On peut citer le gel des loyers des appartements réglementés, les bus gratuits et des bus plus rapides, la gratuité des crèches, la création d'épiceries municipales avec des prix réduits. Toutes ces mesures qu'il souhaite financer en augmentant les impôts des entreprises et des habitants les plus riches. Et surtout, il a toujours gardé une ligne ferme en affirmant qu'il mènerait sa campagne pour les New-Yorkais et non pour les grands donateurs de l'appareil démocrate. Lors des débats municipaux, Zoran Mamdani a d'ailleurs été le seul candidat à ne pas citer Israël quand on lui demandait quel pays il visiterait en premier. Il a répondu qu'il serait maire de New York et qu'il servirait les New-Yorkais avant tout. Et de toute façon, vu ses prises de position, il n'a a priori pas le droit de poser le pied dans l'État d'Israël. On pourrait parler maintenant longtemps des réactions politiques françaises, notamment de toute la gauche française qui tente d'y voir de l'inspiration pour ses futurs politiques, même si les situations sont bien différentes, et que les programmes avancés par exemple les socialistes de chez nous sont vraiment très 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 loin de ressembler aux propositions de Zoran Mamdani.
Non mais n'importe quoi, non mais...
Allez, on reste en France, on va parler médias. C'est le groupe LVMH, la propriété de Bernard Arnault, qui va devenir entièrement propriétaire du magazine économique Les Challenge, pardon, et aussi des revues Science et Avenir ou La Recherche. Les salariés craignent de voir leur indépendance s'envoler, et nous aussi. Bernard Arnault, en 2020, il était déjà entré au capital de ces médias à la hauteur de 40%. D'ici cette fin d'année, donc, il deviendra l'actionnaire majoritaire de ces trois titres, car Claude Perdriel, le patron actuel, souhaite passer la main. Celui-ci en a fait 99 ans, et il a décidé de vendre l'ensemble de ses titres donc, à Bernard Arnault, qui n'attendait que cela. C'est surtout le journal Challenge qui l'intéressait, le magazine Challenge, car ça fait quelques années qu'il était chatouillé par le numéro du classement des personnalités les plus riches. Il n'aime pas voir sa tête en couverture. C'est ce qu'explique Florence Leroy, qui est journaliste justement chez Science et Avenir, et qui fait partie du membre du comité social et économique des éditions Croque Futur, qui chapeaute donc ces trois médias. La situation inquiète donc vivement les salariés. Dans un communiqué qu'ils ont publié ce 29 octobre, les sociétés des journalistes dénoncent une forme de brutalisation de leur futur patron. Parce que celui-ci a clairement, par exemple, énoncé par la voix de son négociateur Nicolas Bétou, l'actuel directeur de l'Opinion, il a énoncé qu'il ne respecterait pas la charte du magazine adoptée en 2013 pour Challenge. Cette charte du magazine actait une ligne éditoriale tournée vers l'économie sociale de marché, avec ses corollaires, donc la défense d'une économie ouverte, humaniste et de progrès. Challenge va devoir défendre l'économie libérale et le monde de l'entreprise, assurait en effet Nicolas Bétou dans le communiqué que fournissent les journalistes. C'est donc le mot social, vous l'aurez compris, qui coince. On risque de devenir un outil de propagande au service du grand patronat et des intérêts du groupe de luxe. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un média non partisan qui respecte le pluralisme des opinions dans lequel on donne la parole à tout le monde. Bon, là-dessus, on pourra en discuter, mais c'est en tout cas ce qu'estime Delphine Deschaux, qui est présidente du bureau de la Société des journalistes, donc du magazine Challenge. Ces journalistes s'inquiètent aussi pour l'avenir de leurs titres scientifiques, donc je vous l'ai dit, Science et Avenir ou La Recherche. Dans la perspective du rachat, en effet, les journalistes demandaient donc à Claude Perdriel, le propriétaire actuel, la signature d'une charte d'indépendance rédactionnelle comme celle de Challenge. Cela leur a été refusé. Alors Bernard Arnault affirme ne pas vouloir mettre son nez dans les affaires de ces deux médias, mais les journalistes se font quand même peu d'illusions. J'ai publié un édito autour de la sobriété, où je disais qu'il ne fallait pas trop attendre des nouvelles technologies, explique par exemple toujours Florence Leroy. Je ne sais pas si je pourrais continuer à faire ce type d'édito à l'avenir. J'ai peur qu'on ne parle que de techno-solutionnisme, qu'on occulte le résultat des recherches en sciences humaines et sociales, explique-t-elle. Et en parlant de technosolutionnisme, elle parlait donc de l'angle sous lequel est abordé souvent le changement climatique. Car oui, quand même, Bernard Arnault, il faut le dire, il adore se mêler de la ligne éditoriale des journaux dont il est propriétaire. C'est pas pour rien, a priori, que tous ces milliardaires achètent des journaux. Le 21 mars, le directeur de la rédaction des Échos avait par exemple été limogé pour avoir publié des articles qui ont déplu aux milliardaires. La Société des journalistes du journal, à l'époque, s'était indignée de cette éviction brutale et avait lancé une grève des journalistes, d'ailleurs. En septembre 2024, Bernard Arnault avait personnellement envoyé une liste de 7 médias à qui les journalistes de ces différents groupes avaient interdiction absolue de parler. C'était les cibles des titres indépendants ou d'investigation, comme par exemple Mediapart ou bien Le Canard Enchaîné. En janvier 2022, le milliardaire avait par ailleurs été auditionné par le Sénat sur justement son empire médiatique. Et il avait tenté de démentir ses tentatives d'influence, tout en déclarant quand même que si les Échos devaient défendre l'économie marxiste, il serait quand même extrêmement gêné. Il faut, dit-il, quand même qu'il y ait des garde-fous. Alors, lorsqu'il sera pleinement propriétaire de Challenge, Bernard Arnault possédera donc une grande partie des titres économiques de notre pays, donc les Échos, mais aussi Investir, la Lettre de l'Expansion et l'Agence économique et financière, Capital et la Tribune, eux, lui échapperont encore, parce qu'en effet, ils sont déjà pris malheureusement par d'autres milliardaires, Vincent Bolloré pour le premier et Rodolphe Sadé pour le second. Donc en termes de pluralité éditoriale, par contre, on pourra repasser.
Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle.
Un petit peu de Dark Foucault pour faire écho à Monsieur Arnault. Allez, on part sur justement Mediapart, tiens, et Libération, qui viennent de publier une nouvelle enquête qui fait des remous, et on y revient sur les violences des gendarmes au cours des manifestations contre les méga-bassines à Sainte-Soline. Le ministre Laurent Nunez fait-il l'autruche ? Libération et Mediapart ont en effet eu accès à des dizaines d'heures d'images qui ont été captées le 25 mars 2023. C'est des images qui viennent des caméras piétons, hein, que sont obligées de porter sur elles les forces de gendarmerie, même si souvent elles préfèrent les éteindre. Les forces de gendarmerie étaient mobilisées en nombre, plus de 3000 sur place, à Sainte-Soline, donc dans les champs, pour protéger le futur chantier d'une méga bassine. Enfin, une digue avec de la terre, mais pas encore de bassine dedans. Interrogé ce matin sur France Inter, donc Laurent Nunez, par rapport à ces images accablantes, hein, des opérations de gendarmerie, il a refusé de parler de violences policières. À peine a-t-il consenti du bout des lèvres à condamner des propos et des gestes qui manifestement ne sont pas réglementaires. « Je ne suis pas du tout content », a-t-il d'ailleurs fait savoir. Mercredi, donc hier, après l'apparition de cette enquête, il avait annoncé l'ouverture d'une enquête administrative sur ces faits qui s'étaient produits dans le cadre d'une manifestation interdite contre les méga-bassines. Voilà, donc il faut que les images fuitent dans les médias pour que la police et le ministère lancent une enquête alors qu'elles étaient en leur possession donc depuis 2 ans, hein, ces images. Ces images donc ont été révélées par Libération et Mediapart. Je vous le disais, elles viennent des caméras des gendarmes. Elles montrent, par exemple, de nombreux tirs tendus de grenades lacrymogènes et explosives, ce qui est interdit et potentiellement mortel pour ces armes. Normalement, elles doivent être utilisées avec des tirs en cloche pour s'ouvrir en l'air. Ce sont donc des usages illégaux, à l'origine d'ailleurs des blessures les plus graves des manifestants. On se rappelle aussi de la mort de beaucoup de déborgnés et de la mort lors des manifestations contre le barrage de Sivens de ce jeune manifestant. Bien ces usages illégaux ne sont pas des cas isolés, mais bien le résultat d'ordre délibéré de procéder à de tels tirs, puisqu'on les entend très clairement sur les extraits que vous pourrez retrouver très facilement si vous allez sur les réseaux sociaux.
Allez les gars, tir de GM2A, l'objectif des manifestants.
Tiens, yeah. T'as bien
compris. J'ai pas bien,
un vrai kiff.
Une GENL dans les couilles, ça fait dégager du monde, hein.
Bah, on va les manger, hein.
Bah oui, on les tue.
Tendu.
Tire à droite, et là, on tire un deuxième dans la gueule.
Sur le groupe.
Le groupe, faites entendu. Faites entendu. Vous attendez quoi, les gars? Tirez, bordel.
De pute, femme de merde.
Un chien.
Gars, ta gueule, fils de pute.
Voilà un petit peu des extraits, vous entendez la fin. Ah merde, ça filme. Les images, donc vous l'avez entendu, montrent également la jubilation des militaires mobilisés. Bon, ça c'est pas interdit. Ils traitent les manifestants, vous l'avez entendu, depuis la pisse, enculé, le chien. Et je passe un petit peu sur les autres trucs, mais en tout cas, ils parlent d'un vrai kiff. Hein. Se réjouissent du nombre de militants écologistes éborgnés. Donc on peut entendre, je vous passe d'autres, je vous lis d'autres extraits. On baisse le Cougar, donc c'est le canon lanceur de grenades. Les gars, allez, on les. Il y a un mec qui lui a mis une cartouche de LBD en pleine tête. Le mec, il était sec, il l'a shooté en pleine tête à 10 mètres. Enfin, il s'amuse bien. Il y a un enculé que j'ai eu à la tête, mon gars. Je ne compte plus les mecs qu'on a éborgnés. T'en crèves 2-3, ça calme les autres. Il y en a un qui dit « J'espère que les enfants sont partis quand même. » Bah, c'est le jeu, fallait pas les emmener. Oui, parce que c'était une manifestation familiale, à la base, en pleine journée. C'était le 25 mars 2023. Hein. Les manifestants, de leur côté, avaient annoncé 200 blessés, dont 40 graves. Et il y avait eu aussi des problèmes d'accès des ambulances sur le site pour évacuer justement les personnes les plus gravement touchées. Deux participants étaient d'ailleurs restés un temps dans le coma et sont encore en train de se remettre de leurs séquelles. Dans la lignée de son prédécesseur d'alors, Gérald Darmanin, le grand pourfendeur de l'éco-terrorisme qu'il avait également inventé, Laurent Nunez a tenté de minimiser donc, les révélations de Libé et de Mediapart en les inscrivant, dit-il, dans le contexte de l'extrême violence des manifestants. Bon, après, la police, ils sont pas censés, normalement, c'est pas une bagarre de rue. Hein. Ils ont des ordres, des manières de faire. C'est pas... On répond, ouais, c'est eux qui ont jeté les premiers. Et puis, allez voir les vidéos, vous verrez que l'arsenal militaire déployé est quand même autrement plus impressionnant du côté des forces de l'ordre, hein, puisque c'est leur métier. Dans la majorité des cas, explique-t-il, l'action de la gendarmerie avait été menée face à des actions extrêmement violentes et la riposte avait été proportionnée. Bon, il y a des actes révélés par ces vidéos qui ne le sont manifestement pas, a-t-il ajouté, hein, en promettant que des sanctions seraient prises. La gendarmerie nationale, qui dispose donc de ces documents depuis plus de 2 ans, n'avait jusque-là pas estimé nécessaire d'ouvrir une procédure disciplinaire. Donc merci qui ? Bah encore merci les journalistes. Face à l'enquête, donc toujours en cours par l'IGGN, les blessés réclament, eux, l'ouverture d'une information judiciaire. Les activistes, élus, militants ou journalistes présents sur place ce jour-là dénoncent depuis longtemps la répression qui avait été orchestrée pour eux à Sainte-Soline lors de cette manifestation initialement pacifique mais interdite, donc je vous le rappelle, contre les méga-bassines de ce coin des Deux-Sèvres.
Une dictature, comme vous y allez. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
Des nouvelles du monde.
Aujourd'hui, jeudi 6 novembre, c'est le premier jeudi après les vacances de la Toussaint. C'est donc maintenant tous les ans la journée nationale de lutte contre le harcèlement. Elle est organisée donc au mois de novembre, l'occasion de rappeler combien la prévention et la lutte contre le harcèlement sont fondamentales pour permettre aux élèves d'avoir une scolarité épanouie dans le cadre de la priorité donnée au bien-être. Dans les colonnes d'Objectif Gare, on peut par exemple lire un reportage sur des ateliers menés à Arles. La direction des écoles de la ville d'Arles a choisi donc comme outil pour aborder avec les plus jeunes la problématique de ce harcèlement scolaire, le Théâtre Forum. Hier, 3 quartiers de la ville donc, ont ainsi simultanément accueilli des représentations adaptées, invitant les enfants à devenir acteurs de leurs propres réflexions. Riez avec vos camarades, ne riez pas de vos camarades. C'est un petit peu le leitmotiv qui était mené par l'association Capacité dans l'école Jules Vallès de Griffeuille. À cette occasion, une 50aine d'enfants, venus notamment des centres de loisirs, puisqu'on était mercredi, ont été plongés dans des scènes du quotidien, guidés par cela par Chantal Rogeman, la fondatrice de l'asso, avec 3 comédiens, Pauline, Olivia et Salah. On est comme vous, on n'a pas envie de voir des scènes de harcèlement, mais on a besoin de les jouer, et on a besoin de vous, pour faire des scènes qui se passent bien, expliquait donc la fondatrice de l'asso aux enfants. Quel chemin prendre pour faire face au harcèlement ? C'est vous qui avez les réponses, montrez-nous. Donc là, ce sont vraiment les principes du Théâtre Forum. Les enfants donc, sont d'abord spectateurs, mais ils deviennent rapidement acteurs. Ils peuvent intervenir en proposant justement des solutions, en rejoignant des scènes de la vie quotidienne où le harcèlement peut survenir. Derrière des rires, parfois la gêne, les thèmes abordés ont donc reflété les réalités souvent douloureuses, des moqueries sur l'apparence, avec notamment des surnoms blessants, des violences verbales répétées, la confiance en soi, la difficulté de s'affirmer sans agressivité, la question de l'intégration aussi dans un groupe ou bien encore le harcèlement qui conduit à la phobie scolaire Et tout cela sans encore évoquer le pouvoir des écrans et des réseaux sociaux qui vient donc s'accentuer souvent plutôt sur les années collège. On peut d'ailleurs aussi citer sur notre territoire, mais qui irradie plus loin, les travaux de la compagnie Poupette Sporting Club avec son projet Tragédie Ordinaire, HS, qui déploie donc ses différentes facettes entre établissements scolaires en récoltant de la parole des jeunes et en la transformant des fois en scène de théâtre ou en atelier avec la marionnette qui est au cœur du jeu pour les ados et les enfants. Là aussi, une manière de mettre à distance un petit peu ces scènes et qui permet d'en parler déjà, de mettre des mots et de montrer des mots ou gestes qui pourraient des fois les arranger, tout en respectant la pudeur dont ont besoin nos chers adolescents. Je vais vous proposer d'écouter justement un petit entretien qu'on avait eu avec Lucie, qui fait partie du Puppet Sporting Club, qui parle de la pièce et donc de cet outil qu'est la marionnette pour aborder des fois des thèmes difficiles.
Ça place tout de suite dans un rapport à la réalité qui montre aux ados qu'on n'est pas en train de les prendre pour des bébés. Et après, quand on leur propose de participer, de faire du théâtre forum avec les marionnettes, donc c'est des marionnettes beaucoup plus simples, là c'est des marionnettes sac très très basiques, du coup là ça fait vraiment bouclier émotionnel. Et par exemple, parce que le théâtre forum, la thématique c'est comment tu résistes à tes potes quand ils te demandent de faire quelque chose que t'as pas envie de faire. Bon bah une fois sur deux, la solution qui est proposée par les ados c'est de foutre des tartes. Donc très bien, bah vas-y on y va, on fout des tartes. Bon bah c'est bien, on peut aller loin avec les marionnettes quand on est sur ça. Du coup on peut aller jusqu'au fait où il y a une marionnette qui meurt, et du coup ça permet d'illustrer, en tout cas de poser la question, à quel moment quand tu utilises la violence pour répondre à la violence, à quel moment ça va être approprié, à quel moment ça va être complètement inadéquat, et du coup de se poser des questions de curseur, de différence entre autodéfense et vengeance, par exemple. Le harcèlement, c'est un grand mot-clé. Et pour nous, c'est surtout une porte d'entrée pour parler des dominations, pour parler des violences, des discriminations, et pour envisager les stratégies de défense, ou de réponse, ou de protection. Mmh. Les filles et les minorités de genre sont beaucoup plus touchées par le harcèlement que les garçons, même si c'est évident que ça concerne tout le monde. Et nous, on a axé sur ça. Le spectacle, c'est aussi une occasion de parler du sexisme comme violence systémique. Et en partant de la réalité des ados et des adultes, qui montre vraiment que le harcèlement, c'est un système. Et c'est pas juste un problème entre deux personnes qui s'entendent pas. Non, 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 c'est des reproductions sociales, c'est des mécanismes dans lesquels on est bloqué. La pièce, elle parle aussi bien des parents que des profs, que de la direction des établissements. Et surtout, qui cherche à voir les moyens, les portes de sortie de la violence, les façons d'en sortir.
Voilà, le Poupette Sporting Club, d'ailleurs, était au collège de la présentation de Ganges, courant octobre. Et ils sont en dernière ligne droite avant leur première représentation, puis une pièce de théâtre aussi va émerger de tout cela. Ça sera à Nîmes le 3 décembre au Périscope, je crois. Bref, pour terminer sur ce sujet du harcèlement scolaire, selon une étude conjointe des services statistiques du ministère de la Justice et de l'Éducation nationale, qui a été publiée ce mardi, les signalements ont malheureusement augmenté de 1052% en deux ans. Bon, c'est aussi le fait de commencer à prendre en compte des paroles, donc ça fait forcément augmenter, mais 1000%, ça fait quand même beaucoup. On est passé de 530 signalements en 2022 à 3500 en 2023, puis à 6100 en 2024, un constat qui rappelle donc l'urgence d'agir. Ce que vous venez d'entendre, là, cette petite virgule, c'était au niveau des percussions du zarb ou du tombak. Et un grand maître de cet instrument vient de nous quitter. Il s'appelle Jamshid Chemirani, né en 42 à Téhéran, donc iranien. C'était un maître percussionniste qui résidait à Paris depuis 1963, reconnu justement pour avoir révolutionné le jeu de ce tombak, tout en transmettant son art à ses enfants et à de nombreux élèves en France. Principale percussion iranienne, donc le zarb est un tambour revêtu d'une membrane en peau de chèvre très tendue. Jamshid Chemirani et ses deux enfants, Kayvan et Bijan, qui eux sont du côté de Marseille, hein, formaient d'ailleurs le trio Chemirani. On a pu voir cet été Bijan Chemirani à la grange chez Bouillon Cube. Le père Jamshid Chemirani donc, vient de nous quitter, mais il avait joué aussi avec de nombreux autres musiciens et de plein d'horizons musicaux différents, comme par exemple dans le trio Eric Marchand que je vous ai passé il y a deux jours. Visiblement, c'est la faucheuse en ce moment, tape fort chez les maîtres musiciens. On l'a écouté, donc lui, il est décédé aussi il y a quelques jours. On va donc se quitter en musique en écoutant Jamshid Chemirani avec Michel Montanaro et Carlo Rizzo, justement, pour montrer un petit peu les croisements sur les rives, autour des rives de la Méditerranée. Hein, vous allez entendre de la Provence, de l'Italie et de l'Orient. C'est un disque qui s'appelait Al Azhar, donc par Michel Montanaro. Et on s'écoute un extrait du morceau Orientala. Et là-dessus, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde. Ça sera jeudi parce que le mardi, c'est férié.
Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.